Vous êtes bien dans l'AJT du local, bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette émission. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 17 septembre, dernière émission de la semaine. Mais on n'a pas, c'est pas une émission au rabais, hein. C'est pas parce que le week-end arrive que nous lésinons sur le programme. Puisqu'aujourd'hui on va parler du château de Lignières à Val-du-Maine, à Balay, qui a été sélectionné par la mission Berne pour bénéficier justement d'une aide pour sa restauration. On verra à quel point c'est important. On va aussi jeter un coup d'œil aux embuscades qui commencent la semaine prochaine, donc ça va arriver très vite du côté de Cossé-le-Vivien. On va aussi développer la programmation du kiosque à Mayenne avec son programmateur Bruno Fléchard. Et puis on va terminer cette émission comme depuis le début de semaine, avec notre feuilleton, dernier jour, et on prend de la hauteur aujourd'hui jusqu'à 40 mètres. Eh oui, jusqu'à 40 mètres au-dessus du sol, ça ce sera en fin d'émission. Mais tout de suite, on fait un point sur l'actualité. Cet agent de l'hôpital suspendu pour n'avoir pas répondu à leur obligation vaccinale en vigueur depuis mercredi. Parmi eux, 3 soignants, 94% du personnel a donc son pass sanitaire. Aucune déprogrammation ni fermeture de lit n'est prévue pour le moment. Au total, dans le département, 18 soignants et agents hospitaliers sont suspendus selon l'Agence régionale de santé. Une minute de silence observée pour le mécanicien décédé dimanche dernier. Minute de silence à laquelle ont participé ce matin les personnels du 1053 et le préfet de la Mayenne, Xavier Lefort, en hommage à Pierre-François Bonnard, mécanicien opérateur à bord de l'hélicoptère du SAMU qui s'est écrasé en Isère dimanche. Retour en Mayenne à la Gravelle où une grange a été détruite par les flammes hier soir. L'incendie s'est déclaré vers 23h30 au lieu dit le Galogis sur la départementale 57. Le feu a pris dans un bâtiment isolé d'une surface de 200 mètres carrés qui abritait 15 tonnes de fourrage. Le feu n'a fait aucune victime mais les pompiers ce matin étaient toujours sur place. Des travaux sur la ligne ferroviaire Château-Gontier-Sablé-sur-Sarthe. Travaux de maîtrise de la végétation réalisés de nuit à partir de lundi et jusqu'à vendredi prochain. Ça risque de faire un petit peu de bruit du côté de Gênes-Longuefuy, Fromentières et Château-Gontier, mais aussi de jour la semaine suivante, aux mêmes endroits et à Gré-en-Bouère. La Maison de l'Europe en Mayenne inaugure son label Europe Direct, label renouvelé pour une durée de 5 ans qui atteste de son rôle de relais des institutions européennes dans le département. Pour l'occasion, demain, entre 14h et 18h, expositions, animations diverses et quiz sont à retrouver sur place. Une émission sur le sujet est aussi à réécouter en podcast sur l'autreradio.fr. Et puis pour gagner le derby, on parle de foot, Olivier Frappoli garde la même équipe, ou presque. Le coach du Stade Lavallois remplace Ryan Ferraoui par Randy Goteny ce soir. Pour le reste, ce seront les mêmes joueurs que la semaine dernière face à Avranches, où ils ont gagné. Ils affronteront donc Le Mans à 19h, ce sera au Stade Francis Lebasserre. Et puis, je vous le disais en tout début d'émission, c'est le seul bâtiment de la Mayenne à avoir été sélectionné par la mission Berne, la mission patrimoine, le château de Lignières à Balay, qui va bénéficier justement d'une aide pour ses travaux de rénovation, puisque le château de Lignières tombe en ruine, en tout cas ce sont les mots de son propriétaire Julien Ostini. Et là, pour des travaux d'urgence, il y a besoin de 700 000 euros au total, avec notamment donc une réfection de la toiture, et une restauration de la chapelle cachée du XIIIe siècle qui est coincée entre le pavillon sud et le pavillon est dans le château. En tout cas, cette aide de la mission patrimoine est bienvenue, comme l'explique son propriétaire, le propriétaire du château, Julien Ostini.
C'est même la bouée de sauvetage qu'il nous fallait pour pouvoir boucler cette première phase de travaux et sauver concrètement le château. La première phase était forcément une grande phase de travaux qui implique une année avec beaucoup de choses à faire à la fois. Et donc ça nous forçait à avoir une première enveloppe un peu énorme de financement. Donc nous, on finance 30 à 40% de l'opération. Et puis derrière, bon, bah, il y a l'État, il y a d'autres services. Et la mission Berne, elle vient permettre de pérenniser ou en tout cas de boucler ce financement-là. La grande priorité, c'est de consolider et d'empêcher l'écroulement ou la mise en ruine du château. Donc là, ça veut dire qu'on va en fait démonter tout ce qui est toiture, toutes les couvertures, nettoyer les charpentes, réparer les charpentes. Il y a L'ensemble des sablières est à changer. Enfin voilà, il y a pas mal de pièces à changer complètement dans les charpentes. Là, on voit assez facilement sur les façades qu'il y a des grandes fissures dans les maçonneries qui se sont créées justement à cause des défauts de charpente. Donc il va falloir démonter une partie des pavillons pour pouvoir les remonter, les réassembler. Et on va reprendre l'ensemble des maçonneries hautes qui permettent l'appui de la charpente et de la couverture, réparer tout ce qui est cheminée. Et une fois que tout ça est consolidé, bah, on finit en remettant la couverture, si vous voulez. Bah, le risque, c'est qu'il s'écroule partiellement à des endroits déjà. Et évidemment, comme la toiture n'a eu aucun entretien, elle est du XVIIe siècle, elle est d'origine. Dès qu'il y a du vent, bah, on a un très joli son d'ardoise qui se balade sur la toiture, ce qui fait que les fuites d'eau ne sont jamais au même endroit. Donc malgré le réseau de bassines qu'on a mis de 70 bassines, qui, bah, souvent il pleut à côté parce que quand il pleut, il y a du vent. Et donc du coup, on joue à cache-cache avec les fuites. J'aime les choses qui tombent en ruine, je crois, ou j'aime en tout cas les défis impossibles où le patrimoine, il est révélateur de notre histoire, d'une évolution. Ça fait depuis le Xe siècle que le site est habité, on est absolument certain. Il s'est passé plein de choses, il y a eu plein d'histoires, plein d'hommes et de femmes, plein d'enfants, et ça nous enseigne aussi sur comment on vivait avec la nature, comment on vivait dans d'autres technologies, dans d'autres façons de faire. Ça me paraît être essentiel d'être capable de transmettre. Et je ne parle pas de mes enfants, c'est de le transmettre tout court à l'humanité, aux gens qui viendront derrière, mes enfants ou quelqu'un d'autre, ou quelqu'un qui vient en visite découvrir le lieu, de dire on préserve un tilleul de 200 ans comme on préserve un château qui a 10 siècles, comme on préserve la coccinelle qui est là, parce qu'à un moment donné, tout ça c'était là avant que j'arrive. Et ma responsabilité d'être humain et de mon passage sur Terre, c'est de faire en sorte qu'au moins ça passe plus loin.
Ça passe plus loin et ça passe aussi par une ouverture du lieu au public. Ça a été le cas tout cet été et ce sera le cas les week-ends de ce mois de septembre et notamment ce week-end à l'occasion des Journées du Patrimoine avec des visites spéciales Vide-Château et une soirée Châtelain-Banque. Donc contraction de Châtelain et Saltimbanque. Dès 19h, une soirée danse et pizza sur place tout près du château. Ce week-end, alors non pas ce week-end d'ailleurs, ça va commencer plutôt la semaine prochaine, le Festival de l'humour des embuscades à Cossé-le-Vivien, la 36e édition, commencera vendredi prochain. Une édition qui peut se maintenir alors qu'on le sait, ça a été compliqué depuis un an et demi avec toutes les facettes autour de l'humour, que ce soit du théâtre gestuel, du théâtre musical, de la musique, du clown ou du théâtre de rue. De quoi en tout cas satisfaire Jean Louris, le directeur artistique du festival, qui nous présente, on va dire, les points forts et les temps forts de ce festival.
La compagnie Ocus, qui est une compagnie bretonne, hein, de la région de Rennes, qui vit sous chapiteau. Donc il y a un grand chapiteau qui sera monté avec les bénévoles. C'est aussi un projet interactif, donc, et implique nos bénévoles. Ils sont venus en 2019. On devait présenter en 2020 la création. Bon, la pandémie était là. Et donc on les reçoit pour cette nouvelle création, le Dédale Palace, avec tout un travail en partenariat avec le pôle culturel du Pays de Cran, les classes orchestres des collèges de Renazé et sous la tutelle de l'EA, l'établissement d'enseignement artistique, et le collège de Lauriette. Le jeune public Jean Jaurès recevra la soupe au caillou, qui est un projet de la compagnie. Et puis, ils nous présenteront surtout cette nouvelle création, le Dédale Palace, qui nous parle un petit peu de notre dépendance aux réseaux sociaux, à tous ces appareils connectés et la façon dont on nous pilote, nous téléguide. Et ça donne évidemment la tortille de tout ça, des messages très forts qui vont générer évidemment des réflexions, des échanges très très forts. Ça reste la vitrine un peu du festival, c'est une nuit de l'humour. Les 1 et 2 octobre, ce sont les soirées consacrées en partie aux partenaires du festival, mais pas que. Le public peut venir bien évidemment avec deux soirées plutôt, on va dire, music hall, cabaret, avec notamment Ian Stott et Cécile Giroux qui viennent du music hall plutôt. Des circassiens, effectivement, avec Jérémy et Charlie. Et puis, un personnage haut en couleur, puisque c'est un soignant. On voulait rendre hommage aussi à ces soignants. Ils sont quand même très sollicités depuis longtemps. Et il est soignant à Monaco. C'était vraiment un résident de Monaco. Il s'appelle Hassan de Monaco, soignant la journée et comédien le soir. Il viendra nous raconter un petit peu ce qu'il vit au bloc opératoire. Ça, c'est les deux premières nuits de l'humour. Et puis les deux dernières, les 8 et 9 octobre, qui concluent un petit peu ce festival, avec deux identités très différentes, puisqu'on aura des clowns qui nous viennent d'Espagne, qui rendent hommage à ces clowns de reprise des cirques d'antan. Et puis ce sera suivi et le titre de leur spectacle nous avait bigrement intéressé, puisque c'est Autorisation de sortie par la compagnie Jossature et les Joyeuses Osselets, spectacle brut de décoffrage, très drôle, très tout public. Et on sera accueillis par un groupe musical, ça ne nous ramènera pas Dalida, qui seront à l'accueil de ces soirées des Nuits de l'Humour. Je n'oublierai surtout pas la soirée du théâtre burlesque en milieu de semaine, le 6 octobre, avec notamment les Pollo Roro, qui sont des Argentins. On leur courait après depuis très longtemps. Ils seront là exceptionnellement le 6 octobre à Cossé-le-Vivien.
Et pour retrouver le reste de la programmation et aussi prendre vos places, rendez-vous sur le site lesembuscades.fr. On va parler d'un autre spectacle et d'autres spectacles avec la programmation du kiosque à Mayenne. Mais juste avant, on va écouter justement des artistes qui font partie de cette programmation. Le groupe Bonbon Vaudou, on écoute L'Amour Ikea.
L'amour Ikea, Ikea, Ikea. L'amour Ikea, Ikea, Ikea.
L'amour Ikea, kit démontable. Ma doudou, as-tu mis le plan pour nos projets en friche étalés sur la table? Où est le cruciforme et la clé à six pans? L'amour Ikea, kit démontable. Choisi sur le net, ça pourrait s'assembler si les outils sont là, si tu te sens capable, ouais, d'en évaluer le poids, d'estimer la portée.
L'amour Ikea, Ikea, Ikea. L'amour qui a, qui a, qui a,
eh. L'amour qui a, qui a, qui a. L'amour Ikea, kit démontable. Ma doudou, as-tu mis la clé? Pour resserrer les vis, ce n'est pas de l'érable, mais de la glo qui ploie sous le poids des dossiers. L'amour Ikea, kit démontable. Ça vacille, mais possiblement ça tient. T'affiles le plan, ça paraît confortable, ouais. Mais rien ne correspond, ce plan, c'est de l'ancien.
L'amour Ikea, Ikea, Ikea. L'amour Ikea, Ikea, Ikea. L'amour Ikea, Ikea, Ikea. L'amour Ikea, Ikea, Ikea. L'amour Ikea, Ikea, Ikea.
Pour monter ce meuble-ci, doudou, je croque, mais hey, check la notice, bébé. Check la notice, la notice, la notice. Pour monter ce meuble-ci, ouais. Oh, doudou, je craque, mais hey, check la notice, bébé. Tu le crois? Il faut être trois.
L'amour Ikea, Ikea, Ikea. L'amour Ikea, Ikea, Ikea. L'amour Ikea, Ikea, Ikea.
Fissure dans la planche, usure du modèle. Je te quitte, moi non plus. Nous deux les bras ballants. Qu'est-ce qu'on fait des promesses? Des planches dématées sur le parquet flottant.
Vaudou dans la JT du local sur l'autre radio. Bonbon Vaudou qui sera donc, je le répète, en concert au Théâtre de Mayenne le 25 février prochain. Ça fait partie des nombreuses dates de la programmation du kiosque à Mayenne. Et on va faire un zoom justement sur cette programmation. Alors l'idée, vous le savez, à chaque fois, c'est pas de lister tous les spectacles que vous pourrez voir, mais en tout cas de donner quelques grands temps forts, quelques coups de cœur, alors que la billetterie ouvre justement ce lundi, dans trois petits jours. On va écouter justement le programmateur du kiosque à Mayenne.
Alors, je suis Bruno Fléchard et je suis responsable de la programmation des spectacles vivants au kiosque à Mayenne depuis de longues années.
Le kiosque qui, justement, comme plein d'autres salles de spectacle, lance sa programmation avec une première date donc, qui sera la Nuit Blanche en Mayenne le 2 octobre. Mais déjà, de revenir sur une programmation avec de nombreuses dates, j'imagine que ça fait du bien, enfin.
Oui, bah oui, on a quand même, on totalise quasiment 18 mois maintenant. Je vais pas dire d'abstinence parce qu'il s'est passé beaucoup de choses en souterrain ou en choses moins habituelles, ce qui est aussi avec beaucoup de côtés positifs. Mais par contre, ce qu'on a plaisir à retrouver depuis le mois de juin, c'est des rendez-vous plus facilités de rencontres entre les artistes, les œuvres et le public. Et ça fait un bien fou à tout le monde. Voilà, j'ai beaucoup de souvenirs maintenant entre le mois de juin, juillet, août et même tout début septembre, de moments où on sent que le public a été en manque et de retrouver ce contact, cette rencontre artistique à quelque chose de plus aujourd'hui.
Et donc ça va commencer, donc je l'ai dit, directement assez fort, puisque ce sera la Nuit Blanche qui aura lieu le 2 octobre à Mayenne.
Absolument. Alors chaque saison au kiosque commence par un événement. Les années impaires, c'est la Nuit Blanche, donc un moment d'art contemporain qui se passe dans la ville de Mayenne, enrichi par quelques propositions de spectacles vivants. Et les années paires, c'est le fameux 53 tours dont je parlais tout à l'heure, qui est lui un événement qui se place plus sur les communes de Mayenne Communauté et qui a une dominante spectacle enrichie par l'art contemporain. Donc voilà, cette année c'est Nuit Blanche, donc je ne vais pas vous en parler en détail parce que c'est mon collègue Mathias Courté qui serait plus doué pour en parler en détail. Mais c'est un moment qui a été très repéré, qui est très repéré par les Mayennais, parce que c'est l'art dans la rue, c'est un moment où on rencontre une trentaine d'artistes qui viennent s'installer à Mayenne, qui présentent leurs œuvres dans leur diversité. Alors il y a des œuvres qui sont plus difficiles, d'autres plus faciles, des familiales, des musicales, il y a vraiment du choix. Et à chaque fois, chacun peut trouver sa dose de plaisir à flâner dans les rues et à aller voir les œuvres dans les lieux adaptés.
Donc ça, ce sera la première date, donc le 2 octobre, ouvert à tous un petit peu dans toute la ville de Mayenne. On va continuer, alors on ne peut pas lister, hein, là il y a plus d'une vingtaine, même presque une trentaine de dates sur toute la saison. Évidemment, on ne va pas les lister, mais on va s'arrêter sur ceux qui sont un peu vos coups de cœur, et notamment une première date, le 13 janvier, avec un stand-up musical, c'est en tout cas comme ça qu'il est décrit, Une Jeunesse à Paris.
Une Jeunesse à Paris, alors c'est un spectacle lyrique donc, que j'ai découvert sur la dernière édition du Chaînon Manquant, et qui résonne très bien avec notre lieu, le petit théâtre municipal. Donc c'est effectivement un tour de force sur une discipline artistique qui souvent est peut-être un peu ingrate ou désuète. Et là, le duo est un duo de jeunes femmes qui se connaissent, qui sont des amies de longue date, et qui revisitent le répertoire de la fin 19e et début 20e siècle sur des chansons un peu coquines, comme très souvent. On est sur une complicité, un humour très fin, et une prestation musicale et lyrique qui est de haut niveau. Donc c'est une rencontre presque conviviale autour de l'art lyrique, dans un petit écrin qui est le théâtre, et donc ce sera forcément un très très grand moment.
Donc ça, ce sera à apprécier, à découvrir le 13 janvier prochain. On continue avec un autre coup de cœur, pour le coup. Ce sera toujours au mois de janvier, le 27, avec le spectacle La Conquête. Donc là, on est avec la compagnie A, c'est comme ça qu'elle s'appelle, qui est d'ailleurs une compagnie qui sera en résidence au kiosque.
Absolument. La compagnie A sont des gens d'Angers. Qui font de la marionnette manipulation d'objets. La Conquête est un spectacle qui retrace ou qui nous raconte un petit peu leur vision de la colonisation et des restes très profonds qui peuvent même ressortir dans le quotidien ici et là, en métropole ou dans les pays concernés. Et c'est aussi très frais, avec beaucoup d'humour et en même temps, on devine qu'on a des réflexes ou des souvenirs qui sont effectivement très discutables quand on y réfléchit. Alors la compagnie A, c'est aussi une compagnie avec qui on entame un parcours artistique, puisqu'on les accueillera en résidence sur la création de leur nouveau spectacle. Ils préparent un spectacle autour de l'œuvre de Barbara.
Plusieurs autres compagnies qui seront en résidence hein, tout au long de l'année, avec, donc on l'a dit, cette compagnie A, la compagnie aussi Mouton Carré, alors qui eux ont une autre spécialité, j'imagine.
Alors le Mouton Carré, c'est une compagnie qu'on a accueillie déjà à deux reprises, sur des spectacles très différents, mais l'un d'entre eux et s'adresser déjà au très jeune public, donc c'est vraiment du public maternel voire petite enfance, et sur la marionnette et un univers, je crois qui était le spectacle s'appelait Ficelle, et on était dans un univers à la fois visuel, très chaleureux en termes d'image, sonore, puisque la musique aussi était faite ou jouée en direct, et puis une histoire, puisque les marionnettes, c'est un peu la magie du théâtre d'objets, qui raconte des histoires parfois sans mots, ce qui sera le cas là ici, et donc on part dans l'aventure d'une création. Donc le Mouton Carré, c'est pour nous là aussi une histoire de fidélité puis de rencontre artistique très chaleureuse. Moi je suis très fan de leur travail. Donc on part un peu à l'aventure avec eux, mais c'est une belle aventure et je n'ai aucun doute sur le résultat final qui sera forcément merveilleux.
Il y aura aussi deux autres, voire même trois autres compagnies qui seront en résidence tout au long de cette saison. Il y aura l'atelier de papier et la compagnie Arzigot, sans oublier la compagnie O. Oui, oui, c'est son nom. Et on va poursuivre en tout cas sur les coups de cœur. Vos coups de cœur en tout cas avec le concert de Bonbon Vaudou qui sera prévu et programmé le 25 février.
Un Bonbon Vaudou, oui, c'est encore une histoire de rencontre puisqu'on les a accueillis, je les ai découverts au Chaînon Manquant encore une fois. On les a accueillis dans le cadre de 53 Tours et la commande de 53 Tours est très particulière puisque les artistes jouent pendant 15 minutes mais ils jouent 15 fois dans le week-end, c'est-à-dire vendredi, samedi, dimanche. Il y a des bus qui amènent le public, voilà. Et le format pour les artistes est assez particulier, et pour le public aussi d'ailleurs. Et fort de beaucoup de frustration, parce que les 15 minutes ça passe très vite, on a eu des retours du public qui étaient très chaleureux, les artistes aussi étaient très contents de cette expérience, et il me semblait juste de les accueillir sur leur vrai spectacle, le spectacle complet, qui est un pur moment de bonheur, et là qui dure 1h15, 1h20. Donc voilà, c'est un juste retour des choses ou une juste continuation du parcours, ne pas se satisfaire de ce petit quart d'heure qui effectivement était trop court pour tout le monde.
J'ai cru voir que c'était assez original, les instruments dont ils se servaient au cours de leur concert.
Oui, c'est vraiment du travail très en finesse. Ils sont tous les deux chanteurs et polyinstrumentistes et très inventifs surtout. Donc, et c'est une heure ou une heure et demie de bonheur.
Et puis on va continuer avec un autre coup de cœur. Alors là, c'est plus de la musique, on est plus sur du théâtre avec la compagnie Loba, qui nous présente son spectacle Bagarre.
Bagarre, oui. Donc la compagnie Loba, qui est la compagnie dirigée par Annabelle Sergent. Là encore, j'ai avec cette compagnie tout un parcours, puisqu'on a accueilli 4 ou 5 spectacles dans les 20 dernières années. Hein, c'est quand même des longs parcours. Et là, le spectacle Bagarre, Annabelle a fait une trilogie sur l'enfance et la guerre. Là, on est sur le dernier volet qui est peut-être un peu moins pesant en termes d'ambiance que les deux précédents et qui parle de la bagarre. La bagarre, notamment dans la cour de récréation ou chez les jeunes, il y a quelque chose de très fascinant dans la bagarre. Tous les frères et sœurs se sont bagarrés et Annabelle a réussi à monter un spectacle qui est à la fois ludique, qui se regarde vraiment très facilement et qui est lisible dès le très jeune public, c'est-à-dire à partir de 8 ans, et qui en même temps pose des vraies questions. Mais c'est quoi ce goût qu'on a tous pour la bagarre elle a créé des personnages et c'est un beau moment que je recommande à tout le monde, évidemment. Quand je parle de coup de cœur, c'est très sévère pour moi parce que je sélectionne 4-5 spectacles pour ne pas en mettre trop. Mais il y en a un quand même sur lequel je voudrais juste dire un mot. C'est Pianistologie, qui est un spectacle fou par Simon Fage, donc un pianiste totalement déjanté qui est bourré de talent et qui surtout mènera un projet avec l'Orchestre d'Harmonie du Pays de Mayenne, donc qui accompagnera cet artiste-là. Et là, c'est un rendez-vous pur plaisir. C'est mon sixième coup de cœur qui n'est pas dans la plaquette. Voilà.
Puisque justement, là aussi, dans toutes vos programmations, l'idée c'est de s'adresser à différents publics, au public le plus large évidemment. Et puis aussi, il y a vraiment des actions spécifiques de médiation culturelle où là vous allez vraiment les chercher, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il y a forcément déjà des actions auprès des scolaires. Ça va être aussi reconduit cette année ?
Je dis souvent que c'est le deuxième pied du secteur spectacle vivant, c'est-à-dire c'est pas le tout de choisir des spectacles. L'important, c'est de le partager. Alors, de partager avec le public qui vient naturellement au théâtre, il y en a beaucoup. Et il y en a qu'il faut aller chercher. Donc, je pense notamment aux établissements scolaires avec qui on a des relais, avec qui on travaille depuis de longues années aussi, et puis des échanges très fructueux. Mais les élèves changent à chaque fois. Et donc, on a deux médiatrices qui travaillent à organiser ces moments de rencontre. Alors, dans l'idéal, je repense au dispositif aux arts collégiens qui est venu renforcer notre travail depuis quelques années et qui est un dispositif extrêmement pertinent au regard des collégiens qui a priori sont un public qui se désintéresse totalement du théâtre ou du spectacle vivant en général. Ils ont d'autres centres d'intérêt et là ils sont amenés à rencontrer les artistes, rencontrer une œuvre, pratiquer la discipline artistique. S'ils ont un parcours sur le théâtre, ils vont faire du théâtre. Si c'est de la danse, ils vont faire de la danse. Si c'est de l'art plastique, ils vont faire de l'art plastique. Et ça crée vraiment au sein des établissements scolaires et dans les classes des relations entre les élèves qui n'ont rien à voir avec les relations parfois normalement un peu dures que peuvent avoir les jeunes entre eux. Et ils apprennent à s'écouter, à se respecter. Et voilà, il se passe beaucoup de choses autour de ces ateliers, de ces temps artistiques. Et pour moi, c'est quelque chose de très précieux. Nous, ce qu'on souhaite à chaque fois, c'est créer un choc émotionnel fort avec la personne qui est engagée dans ce parcours-là. Et souvent, ce sont effectivement des aventures intimes qui marquent le public de façon très profonde. On se souvient tous d'un spectacle qu'on a fait quand on était petit à l'école, qu'on a présenté aux parents ou présenté à un public. Et je pense que ça fait partie de la construction de l'individu, des aspects très positifs de la construction individuelle. Alors là, je vous ai juste évoqué de façon un peu affinée le travail avec les collégiens. Il faut savoir qu'on a ce type de proposition dès la maternelle, primaire, petite enfance, même avec Croque les mots marmots, qui est un point fort dans notre programmation aussi. On fait aussi un travail avec l'hôpital au travers d'un parcours culture et santé. Donc voilà, c'est vraiment des projets, des micro-projets dont on n'entend pas forcément beaucoup parler, mais qui sont une force intense de propositions auxquelles on est très attaché.
Justement, pour le grand public, la billetterie, elle s'ouvre d'ici quelques jours. Ce sera le 20 septembre. Comment ça marche cette année, justement, si on veut s'abonner, si on veut acheter des billets pour les spectacles ?
Vous pouvez évidemment venir au kiosque à Place Juel à Mayenne et aussi sur notre site qui permet la vente en ligne des places. Donc, kiosque-mayenne.org. Ding, ding, ding. Et voilà, donc, et puis appeler s'il y a besoin de renseignements.
Et sachez que les abonnements, eux, sont déjà accessibles. Premier rendez-vous, on le rappelle, ce sera la Nuit Blanche à Mayenne le 2 octobre prochain. On fait une petite pause en musique avec IAM, ce qui n'est pas du tout un hasard, puisque aujourd'hui, Akhenaton souffle ses 53 bougies, l'occasion de réécouter ce classique avec donc Petit Frère.
Devenir grand, c'est pourquoi il s'obstine à jouer les sauvages dès l'âge de 10 ans. Devenir adulte avec les infos comme mentor, c'est éclater les tranches de ceux qui ne sont pas d'accord. À l'époque où grand frère était gamin, on se tapait des délires sur Blanche-Neige et les sept nains. Maintenant les nains, on gicle Blanche-Neige et tape éclate des types claques dans Mortal Kombat. À 13 ans, il aime déjà l'argent, avide mais ses poches sont parides. Alors on fait le caïd dans des booms qui sont désormais des soirées, plus de sirop dessert. Petit frère de tes pierres, je ne crois pas que c'était volontaire. L'adulte c'est certain, indirectement a montré que faire le mal c'est bien. Demain ses cahiers seront pleins de ratures. Petit frère fume des spliffs et casse des voitures.
Petit frère a déserté les terrains de jeu.
Il marche à peine et veut des bottes de 7 lieux.
Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir. Petit frère. Rêve de bagnole, de fringue et de thune, de réputation de dur. Pour tout ça, il volerait la lune. Il collectionne les méfaits sans se soucier du mal qu'il fait, tout en demandant du respect. Peu lui importe de quoi demain sera fait, de donner à certains des raisons de mépriser son cadet. Dans sa tête, le rayonnement du tube cathodique a étouffé les vibrations des dames de l'Afrique. Plus de cartable, il ne saurait pas quoi en faire. Il ne joue plus aux billes, il veut jouer du revolver. Petit frère a jeté ses soldats pour devenir un guerrier, pensez au butin qu'il va amasser.
Petit frère a déserté les terrains de jeu.
Il marche à peine et veut des bottes de 7 lieues.
Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir. Petit frère.
De temps en
mode de la violence à l'école existait déjà. De mon temps, les raquettes, les bastons, les dégâts, les coups de patte dans les pare-brises, des tirs des instituteurs, embrouille à coups de cutter. Mais on parlait au journal tous les soirs, ça devient banal. Ça s'imprime dans la rétine comme situation normale. Et si petit frère veut faire parler de lui, il réitère ce qu'il a vu avant 8h30. Merde, en 80 c'était des états de fait, mais là ces journalistes ont fait des états. Et je ne crois pas que petit frère soit pire qu'avant, juste surexposé à la pub aux actes violents. Pour des grandes causes et de meilleurs citrons, la cible numéro 1, le terrain des produits de consommation. Et pour être sûr qu'ils s'en procurent, petit frère s'assure, flingue à la ceinture.
On sait ce que tu es quand on voit ce que tu possèdes. Petit frère le sait et garde ce fait en tête. L'argent lui ouvrirait les portes sur un ciel azur aussi facilement que ses tournevis ouvrent celles des voitures. Le grand standing et tout ce dont il a envie, ça passe mieux quand tu portes un Giorgio Armani. Soucieux du regard des gens, malgré son jeune âge, petit frère fume pour paraître plus grand. Il voudrait prendre l'autoroute de la fortune et ne se rend pas compte qu'il pourrait y laisser des plumes. Il vient à peine de sortir de son œuf et déjà petit frère veut être plus gros que le bœuf.
Petit frère a déserté les terrains de jeu,
il marche à peine et veut des portes de 7 lieux.
Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir. Petit frère,
grand classique d'IAM sur l'autre radio. Petit frère, vous êtes toujours dans la JT du local. Nous sommes vendredi, c'est donc le dernier épisode de notre série autour des journées du patrimoine. Et pour ce dernier jour, on va prendre de la hauteur, un peu, voire même beaucoup, avec Michael Buton. Il rénove depuis 4 ans un château d'eau à Dent. On y retrouve aujourd'hui un gîte de 14 couchages et une salle de séminaire. Mais pour se retrouver à 35 mètres de hauteur, il a d'abord fallu grimper les 150 marches. Là, on est à l'intérieur de ce château d'eau là, qui a été entièrement rénové en gîte. Mais ce n'est pas du tout l'état dans lequel vous l'avez trouvé il y a 4 ans. Il ressemblait à quoi justement il y a 4 ans ?
Il ressemblait à un véritable pigeonnier. Il y avait à peu près 1000 à 2000 pigeons qui vivaient dans le château d'eau. Alors il a fallu faire un grand nettoyage, il a fallu faire sortir les pigeons d'abord. Il a fait démolir du béton pour pouvoir ouvrir des fenêtres et pour pouvoir avoir cette vue qu'on a, qui est remarquable, qui est reposante. L'idée, ça m'est déjà travaillé avant de trouver le château d'eau, parce que j'en cherchais pas spécialement un, mais j'avais déjà parlé à un ami, oh si je trouve un château d'eau, je me ferai une garçonnière là-dedans. J'imagine bien faire quelque chose dans un château d'eau, parce que j'ai l'habitude de rénover des maisons, mais je voulais faire quelque chose totalement atypique, juste pour me faire plaisir. Justement, c'est un ami qui me dit, j'ai vu dans le journal qu'il démolissait le château d'eau à côté de chez toi. Je suis rentré, comme la porte était toujours ouverte, alors j'ai mesuré, hop, les dimensions, j'ai dit tiens, une nuit de sommeil, deux nuits de sommeil, et les plans étaient faits. Je savais que c'était la mairesse de Biarnier qui s'occupait du syndicat des eaux. J'ai été lui faire une proposition d'achat, d'abord qu'il l'a surpris, parce que pour elle, il pensait pas du tout vendre le château d'eau, eux, ils pensaient qu'à la démolition, et c'est comme ça que c'est arrivé. Alors j'ai commencé par faire des structures pour pouvoir monter et démonter, à fur et à mesure que je montais, j'ai démonté des anciens tuyaux qu'il y avait, refaire une structure totale pour monter en haut, voilà, faire des niveaux, pour pouvoir mettre des escaliers, pour servir pour démonter la cuve, parce que c'était un réservoir à double cuve. Il a fait démonter à peu près 4 mètres de béton sur 20 mètres linéaires pour pouvoir bénéficier justement de la totalité de la vue qu'on a ou de la salle. Et ça, tout ça, ça a pris beaucoup de temps en fait. Je fais plus de 90% tout seul des travaux. Hein, voilà. J'ai des super copains qui m'aident quand il faut monter les matériaux, heureusement. c'est un projet que j'ai totalement à cœur et qui me dégoûte surtout pas. Et je fais tout pour pas que ça me dégoûte, hein, parce que j'y vais quand j'ai envie et voilà, je suis pas tous les jours dessus et je fais d'autres choses aussi à côté, alors je m'arrange, voilà. Tout le monde pense qu'au départ, qu'est-ce qu'on peut faire dans un château d'eau, c'est tout petit, mais réellement, il y a beaucoup de place. C'est trompeur, on est perdu dans les tailles, les proportions, on est totalement perdu. Et quand on est en haut, qu'on voit, là, on voit à peu près 20-30 km très très bien,
Et pour se repérer, faut chercher les clochers, les éoliennes, les autres châteaux d'eau, voilà, des antennes. Tout le monde se prend au jeu, en fin de compte, pour se repérer. On voit beaucoup des curiosités qu'on ne voit pas au sol. Que ce soit la nature, avec les animaux, parce qu'on a une vue, on voit les animaux voler souvent, on est au-dessus d'eux quand ils volent, hein, les oiseaux, tout ça. Les nuits aussi, les éclairages, on sert des éclairages pour voir les autres communes. Il y a même beaucoup de personnes qui ont le vertige, ils disent « Ah non, moi je ne monterai jamais sur le balcon ». Et souvent, ils sont là, ils disent « Faut que je tente, faut que j'y aille ». Et comme ils sont haut et tout, ils voient que c'est sans sécurité, et ça, généralement, ils y vont.
Alors, est-ce que vous aussi, si vous avez le vertige, vous oserez aller sur le balcon du château d'eau dedans? En tout cas, si vous voulez tester, le château d'eau est ouvert demain et dimanche de 9h à 19h. L'an dernier, les visites ont très bien fonctionné puisqu'ils ont accueilli près d'un millier de visiteurs. Alors, ce serait difficile hein, aujourd'hui de faire le point sur tout ce qui vous attend ce week-end justement pour les journées du patrimoine en Mayenne. Il y a beaucoup de choses. Donc là, on va parler de certaines ouvertures un peu exceptionnelles que vous ne pourrez pas, des monuments ou des jardins auxquels vous n'avez pas accès d'habitude. C'est notamment le cas donc, à Ménil. On avait fait d'ailleurs un reportage cet été sur le moulin de la Petite Bavouse, là, qui est toujours en travaux, mais donc qui sera accessible au public demain matin et dimanche toute la journée. Alors lui, il n'est pas du tout en travaux, mais il n'est pas accessible au public habituellement. L'hôtel préfectoral, donc l'hôtel et les jardins de la préfecture seront accessibles tout l'après-midi, demain et dimanche. Même chose pour le conseil départemental à Laval, là aussi. Vous pourrez aussi visiter l'ancienne fonderie de Port-Briet qui sera accessible là le samedi après-midi et dimanche toute la journée. Et enfin, samedi toute la journée. Donc demain, la Templerie sera à l'honneur à Saint-Hilaire-du-Maine avec plusieurs animations médiévales. Vous retrouverez normalement et notamment des archers, la fabrication de cottes de mailles ou encore une exposition d'outils de cuisine. Voilà, ce n'est qu'un tout petit aperçu de tout ce que vous pouvez faire dans le département demain, mais j'espère vous avoir un petit peu donné envie. C'était aussi la volonté avec les reportages toute cette semaine, puisque ça y est, c'est déjà la fin de notre émission L'Agité du local. À suivre à l'antenne, ne partez pas, puisqu'il y a à 19h30 une émission spéciale en direct du Chaînon Manquant à Laval. François et Stéphane vont recevoir dans notre studio ouvert les acteurs de cet événement, et notamment Kevin Douvillet et Sarah Dufour. Pour la suite, c'est la surprise, je vous laisse découvrir. Ce sera suivi à 21h de Passe-moi le thème, consacré aujourd'hui aux pochettes d'albums qui arborent des panneaux de signalisation routière. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à lundi, toujours à 12h15.